Il est 23h15 sur Europe 1. Nous accueillons maintenant Nicole au 3921. Bonsoir Nicole.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir.
Je suis un peu émue.
Oui, j'entends ça.
Je suis très émue d'être à l'antenne.
Oui, mais j'entends ça Nicole, mais ça, tout va bien se passer, ne vous inquiétez pas.
Oui, j'espère. Oui, je suis une mamie, bien sûr.
Oui.
Je ne sais pas trop comment m'y prendre, je suis toujours dans la souffrance, mais il faut que je la surmonte. Mon époux, on était mariés depuis 59 ans, m'a quitté le 12 février 2020, et depuis, je n'arrive pas à surmonter.
Vous n'arrivez pas à surmonter.
Oui, ça m'est très difficile, parce que, on a passé de très bons moments.
Oui.
Mais je l'ai vu partir sous mes yeux. Et cette scène amoureuse sous mes yeux, ça, même si j'ai essayé de faire quelque chose, j'ai pas pu le sauver.
Parce que vous ne vous y attendiez pas du tout, Nicole.
Du tout.
D'accord.
Du tout, Olivier. La veille, nous étions allés marcher, parce que moi, je suis insuffisante respiratoire. Vous devez sans dire que je suis essoufflée.
Oui, un petit peu.
Je suis sous oxygène, donc nuit et jour. Et donc, on allait marcher, mais il m'accompagnait tout le temps, parce que je ne peux pas marcher seule. Et on était allés chez le primeur, la veille. Et le samedi, il m'a dit, je change de fauteuil, je vais regarder un match. Donc, moi, je devais être sur Internet, je pense. Je sais pas, j'étais à côté, puis tout d'un coup, j'ai entendu un drôle de bruit. Je suis venue, et là, il était en train de mourir. Alors, vite, j'ai appuyé sur mon assistance, moi, parce que je suis sous assistance. Mais il tarde à me répondre, alors j'ai fait le 15. Le 15, c'est pareil, on pose beaucoup de questions pendant ce temps. Je l'ai massé, j'ai fait le massage cardiaque. Mais faire un massage cardiaque sur un fauteuil mou, c'est comme si on ne faisait rien. Et je lui ai fait le bouche à bouche, mais il était déjà mort.
Que lui est-il arrivé, en fait, vous savez?
Et quel... Mais exactement, ils ne savent pas trop. Parce que quand ils sont venus, le SAMU est arrivé, j'avais déjà appelé mon fils, qui habite à quelques kilomètres de chez moi, pas très loin, mais enfin, quand même, il faut bien une heure pour venir. Je lui ai dit, viens, papa est mort. Je n'avais pas vu encore le SAMU. Puis le SAMU est arrivé. Et ils m'ont dit, il fallait le mettre par terre pour le massage cardiaque. Mais comment voulez-vous mettre un corps mort par terre qui fait 75 kilos?
Mais bien sûr. Qui vous a dit ça?
Le médecin réanimateur.
Oui, mais enfin, il est gentil, le médecin réanimateur. Mais vu que vous êtes en insuffisance respiratoire, prendre un homme comme ça qui pèse 75 kilos, comme vous dites, c'est pas...
Oui, il était mort. Moi, je l'ai vu parce que je suis dans le métier, Olivier. J'ai su qu'il était mort. Et alors, après, ils l'ont choqué. Ils sont arrivés, ils ont fait des chocs sur chocs sur chocs. Son cœur a redémarré. Et j'ai mon plus proche voisin qui travaille dans le même hôpital et qui est réanimateur aussi, mais qui ne travaillait pas ce jour-là, puisque c'était un samedi, c'était son collègue. Et il est venu tout de suite. Il m'a dit, madame, bon, je ne vous dis pas mon nom à l'antenne, est-ce qu'il avait fait ses dernières volontés, votre époux? Je ne vais pas pleurer, Olivier, je ne vais pas pleurer. Et il m'a dit, j'ai dit, mais pourquoi vous me demandez ça? Il m'a dit, parce que votre mari est mort.
Oui.
Alors, ils l'ont emmené, ils l'ont mis sous machine.
Ils l'ont mis sous machine?
Sous machine, sous respirateur artificiel. Oui. J'avais l'impression qu'il vivait. Il respirait. Je lui parlais. Je lui disais, t'en veux pas, j'ai besoin de toi. Tu sais que moi, je suis avec mes appareils, c'est toi qui t'occupes de moi. Mais je savais qu'il était mort. Et puis trois jours après, on lui a fait un électroencéphalogramme. Et là, ça a été du définitif. Ils m'ont appelé avec mes enfants qui étaient tous là. Ils m'ont dit, il faut venir. Voilà. Et entre-temps, j'avais vu un réanimateur aussi. Et pas jamais les mêmes. Je parle trop vite, peut-être, Olivier.
Pas du tout.
La fille de ma nièce est infirmière à ce service. Et elle m'a dit, si tu veux, j'appelle le médecin, il te parlera. Donc elle a appelé ce réanimateur. Et il m'a dit, madame, s'il y a quelqu'un à soigner, en ce moment-là, c'est vous, parce que votre mari est mort. Mais vous en demandez, il est mort, votre mari. Il m'a choquée, exprès. Il m'a dit, c'est pas par méchanceté qu'il m'a dit ça.
Il fallait qu'il me fasse prendre conscience qu'il n'était plus là.
Oui.
Il était là, il respirait. Et puis le lendemain, ils lui ont fait leurs examens. Tout était fichu, il n'avait plus rien, le foie, les reins. Et il n'avait plus rien au niveau cérébral. Donc, ils m'ont appelé avec mes enfants. Ils m'ont dit, voilà, il faut le débrancher. Ils l'ont débranché, il est parti, sans souffrir, sans rien. Parce qu'il était mort.
Mmh.
Et cette vision sur le fauteuil.
Oui, c'est ça que vous n'arrivez pas à vous retirer de la tête, en fait.
Oui.
Vous revivez en permanence ce moment-là, en fait. Vous y pensez tout le temps.
Voilà, voilà. Alors, bien, j'ai quelques amis qui viennent. Mais comme je disais à Florian, j'ai dit, bon, quand, vous savez, il y a un proverbe, je ne sais pas trop le dire exactement, mais quand le ciel est bleu, bon, il y a toujours les amis qui sont là, mais dès qu'ils sont gris, dès que le ciel est gris, les amis, adieu les amis, les vrais amis, pas les vrais, parce que les vrais, il en reste quelques-uns, mais il n'en reste pas beaucoup. Mais enfin, bon, voilà, donc je vis ça, j'ai essayé de changer un peu la disposition de mon salon. Mais j'ai pas pu enlever son fauteuil. Je ne peux pas l'enlever, il faudrait que je l'enlève. Parce que chaque fois que je passe, que je vais m'asseoir dans mon canapé, je lui parle. Je lui dis, tu es là, réponds-moi.
Oui. Est-ce que vous faites accompagner un petit peu, vous voyez un peu quelqu'un, vous parlez alors, un peu à quelqu'un?
Oui, alors suite au décès, le médecin réanimateur m'avait dit, on a une psycho dans le service. Qui s'occupe justement des morts comme ça, brutales. Et donc, ils m'ont mis en contact avec elle et le confinement est arrivé. Donc, elle m'a appelé, elle me dit que je pourrais plus, elle me dit que je ne peux plus vous voir parce qu'on est confiné, je ne peux plus recevoir personne. Alors, bon, j'ai fait ce que j'ai pu, ce que j'ai la chance, malgré tout, enfin, la chance, oui, c'est que la réponse de mon médecin traitant, elle fait de la méditation, elle est un peu psychothérapeute, elle n'est pas médecin, mais bon. Alors là, je ne vous cache pas qu'avant de vous avoir au téléphone, j'ai essayé de faire une séance de méditation pour essayer de ne pas trop pleurer.
Et oui, parce que, bon, c'est difficile de toute façon. Ce que vous avez vécu est extrêmement difficile, hein, Nicole. C'est malheureusement un épisode de la vie... qui arrive tôt ou tard, mais là...
Oui, mais si vite,
oui.
Bien sûr.
Les conditions, dit, surtout,
les
dans lesquelles vous avez
disent,
vécu
mais
ça.
Vous avez vécu quand même, mon mari avait 80, il allait avoir 83 ans.
Oui.
Mais on aurait dit un homme de 60 ans. Tout le monde lui disait, tu ne veux pas ton âge. Il était toujours bien droit, bien, il ne faisait pas son âge. Personne n'aurait pu penser qu'il allait mourir comme ça, personne. Moi, je disais, je vais partir avant toi, que je lui avais donné des conseils, parce que moi, en étant sous oxygène, nuit et jour, je suis quand même assez malade. Et je lui disais, toi, quand je partirai, tu feras ça. Et puis voilà. C'est pas lui, moi, qui suis partie. Mmh.
Qu'est-ce que vous pourriez faire, Nicole, pour éviter donc de penser à ça en permanence, en fait
Il faudrait que ça ait le courage d'enlever son fauteuil d'abord. C'est un fauteuil qui se bascule, vous savez, parce qu'on avait des fauteuils qu'on peut s'étendre quoi, dessus.
Oui.
Voilà. Donc, et ce fauteuil, mais une de mes petites filles me dit, mamie, tu devrais l'enlever, ce fauteuil. Mais je ne peux pas, encore, je ne peux pas pour le moment.
Parce que si vous l'enleviez, en fait, ça voudrait dire quoi pour vous?
Ça voudrait, si je l'enlève pour moi, c'est comme s'il mourait deux fois.
Oui.
Vous m'avez parlé de... Parce que son fauteuil est là, donc pour moi, il est encore là.
Mmh. Vous m'avez parlé de vos enfants, en fait.
Oui.
Est-ce que vos enfants viennent un peu ou est-ce que vous les voyez un peu, vos enfants?
J'ai un fils qui est à Paris avec sa compagne, donc ils le font tous les jours. Et j'en ai un autre qui est à 50 km de chez moi, il me téléphone tous les jours aussi. Mais j'essaie de me montrer, si vous voulez. J'essaie de ne pas leur transmettre cette angoisse que j'ai, cette détresse, cette solitude, cette douleur. parce que je ne veux pas les faire souffrir.
Oui, je comprends, mais il faut que vous parliez quand même à quelqu'un un peu de tout ça.
Oui, oui, je sais. Je sais. Alors, j'en parle avec la femme de mon médecin qui est super gentille parce que elle passe des fois 400 séances comme ça. Ben, elle me dit, je passe vous voir, Nicole, on boira le café, puis on parlera. Alors, ça me fait du bien sûr, mais oui, je pense qu'il faudrait que je voie quelqu'un d'autre, une psychologue, pour que j'arrive à le dépasser, tout ça. Mais c'est pas facile, vous savez.
Oui, c'est très compliqué, mais vraiment, il faudra arriver à travailler là-dessus pour dépasser ce moment-là, en tout cas, que ça soit quelque chose auquel vous ne pensiez pas en permanence comme ça. Moi, je pense vraiment que la prochaine fois qu'un de vos fils vient, il faudrait vraiment que vous lui demandiez d'enlever ce fauteuil.
Oui, vous pensez qu'il faudrait l'enlever aussi.
Mais oui, parce que ce fauteuil, une fois qu'il sera... peut-être que sur le moment, ça va vous remuer. Hein, ça va être difficile, mais au final, après, vous n'aurez plus la vision de ce fauteuil, vous n'aurez plus la vision de ce moment-là qui reviendra aussi souvent, vous comprenez ?
Oui, parce que c'est quelque chose qui me hante, ce départ-là, vous savez, c'est une mort brutale, quoi. C'est une mort suite.
On va faire une petite pause, Nicole, si vous voulez bien.
Oui.
D'accord ?
Merci, Olivier.
À tout de suite. Il est 23h28 sur Europe 1 et vous êtes sur votre libre antenne. Nicole, vous allez me dire quelque chose en fait. Vous allez me dire, je ne sais pas, au moment où je vous ai coupé, on parlait d'enlever ce fauteuil.
D'enlever le fauteuil, oui, ça me fera très mal quand ils me l'enlèveront, mais peut-être que j'avais été hospitalisée un peu dans un centre, dans un hôpital, si vous voulez, pour les diabétiques. Je ne suis pas diabétique, mais je suis en surpoids. Alors, mon médecin, ce qu'il a entendu avec le médecin de ce centre diabétique, pour que je parte un peu de chez moi. Et le médecin m'avait dit, il faut tout changer, votre salon. Il faut tout le modifier. Et elle me dit comme vous, elle me dit, il faut plus qu'il y ait ce fauteuil, quoi. Parce que ce fauteuil, je lui parle. Je lui parle, j'écoute la télé, il y a quelque chose qu'on regardait, on était tout le temps ensemble, Olivier, tout le temps. Et dès qu'il y a quelque chose à la télé, j'écoute, je me retourne vers le fauteuil, je lui dis, tu vois, j'arrive à me rendre compte que je lui parle toute seule, je dis, tu entends, t'as vu? Et puis après, bon, je réalise tout de suite, quoi, que... Mais bon, je trouve que c'est long, mais...
Bon, après,
on reste
si,
pas 60 ans ensemble.
Non,
que...
mais après, s'il lui parlait, si vous avez certaines croyances, si lui parler vous fait du bien, vous voyez, si vous ressentez encore un peu sa présence, là, je ne sais pas, je sais que pour certaines personnes, ça fait du bien et que certaines personnes ont des croyances qui les portent donc à croire et à parler à celle ou celui qui a disparu. Rien ne vous empêche, ça vous appartient, c'est à vous, Nicole, vous pouvez faire ce que vous voulez.
Je lui raconte ma journée, le soir quand je me couche, je lui raconte ma journée.
Mais ça vous fait du bien, ça vous fait du bien ?
Ben, il me semble que de lui parler, oui, ça me soulage, parce que, écoutez, on est croyant ou on n'est pas croyant, moi je trouve que je suis croyante, et j'espère qu'il m'entend, qu'il me voit, voilà. Mais dans la douleur, vous savez, même si vous êtes croyante, vous avez toujours un petit doute, parce que vous arrivez à vous dire, mais pourquoi Dieu m'a fait ça?
Parce que vous savez bien que Dieu n'est pas un Dieu horloger qui décide de la mort des uns et des autres. C'est pas comme ça que ça se passe, vous le savez.
Oui, je le sais. Mais en plus, je le sais, parce que, mais si vous voulez, c'est malgré soi, quoi. Tout le monde nous disait, mais un couple comme vous, on n'en voit plus, quoi. J'habite dans le sud de l'Ardèche, on devait l'entendre.
Votre joli accent.
Oui, je sais pas. Mais voilà, donc, et les gens nous disaient, mais c'est fini, des couples comme vous, c'est fini, quoi. La durée moyenne, c'est 7 ans, on nous disait. Mais voilà, on devait fêter nos noces de diamant l'année prochaine.
Mais vous voyez, en fait, vous avez vu des gens partir autour de vous, hein, Nicole.
Oh là,
vous savez que
oui. Plus
on vieillit, plus on se rapproche de ces moments qui sont... Qui sont très difficiles.
Bien sûr.
Et ce qu'il faut pour votre vie à vous, là. Et Catherine, au 739-21, nous écrit qu'elle vous embrasse d'ailleurs, d'abord. Et qu'il faut que vous enleviez ces deux fauteuils et que vous en achetiez un nouveau pour vous.
Oui. Hein,
pour
oui.
Que votre mari sera quand même avec vous si vous le sentez.
Mais oui, il a sa photo. Il a sa photo partout, dans ma chambre, là,
oui.
dans le salon. Il y a ses photos, quoi. Donc, et puis, voilà. Et je fais être mon ordinateur. Et je regarde les bons moments, parce qu'on a passé de bons moments. On a eu de beaux garçons. Ils nous ont donné un tout trois petits-enfants qui sont adorables.
Vous avez des petits-enfants?
Oui, j'ai une petite fille qui a 26 ans, qui... travail elle a fait de la biologie mononucléaire, je ne me rappelle pas bien de son titre, enfin elle a un master quoi. Elle fait la biologie, elle analyse sur la biologie, elle a trouvé un travail, elle a très très bien réussi ses études, et puis j'en ai une autre qui est sur Montpellier, donc qui fait des études aussi, et puis mon plus jeune qui a 18 ans. Il lui a encore été au lycée, il passe son bac cette année.
Bon, vous voyez, il faut penser à tous ces petits-enfants, à cette génération qui, sans vous, ne serait pas là. Donc ça, c'est important.
Oui.
Et puis, continuer de vraiment, vraiment, la prochaine fois qu'il y a un de vos fils qui vient, il faut vraiment envisager d'enlever ce qui vous fait penser à ça. Alors, vous ne les jetez pas, hein, vous les mettez ailleurs, c'est quelque chose... que vous saurez qui, quelque part,
là,
rangé.
Je le mets dans une chambre qui n'est pas occupée.
Voilà. Mais c'est important pour vous que vous continuiez à parler à votre mari, mais que vous passiez à autre chose dans le décor, vous voyez, parce que tant que vous allez voir ce fauteuil, vous allez rester accroché à revivre cette situation en permanence. Hein. Ce fauteuil, il va vous ramener en permanence à ce moment. Vous rendez compte que au final, votre mari n'est plus là et que quand vous y pensez, c'est à cause de ce fauteuil et que ça ne vous ramène qu'à une image de terreur, de douleur, de mort, en fait.
Alors il y a l'image, la terreur, de la douleur, mais surtout, comment est-ce que vous expliquez vivre la mort de son proche en direct.
Eh oui.
Mais c'est terrible. Je crois que je l'aurais trouvé mort dans son lit, ça aurait eu très très mal. Mais j'aurais dit, j'ai rien pu faire, il était mort. Jusque là, j'étais là quand il mourait.
Mais oui, et donc du coup, il faut que vous cassiez ce processus-là.
Oui.
Hein, parce que, encore une fois, je pense que dans quelques temps, Nicole, vous pourrez vous raccrocher à des souvenirs gais, hein, à des souvenirs de vie... et que vous pourrez lui raconter tout un tas de choses, mais sans qu'il y ait ce moment qui vienne vous empêcher de relever la tête, de remonter à la surface. Là, parce que, bien évidemment, que lorsqu'on vit plus de 50 ans avec quelqu'un et qu'il s'en va, que c'est une absence terrible.
C'est une absence, on a l'impression qu'on est dans une île déserte.
Exactement. Et pour vous, bien évidemment, ces moments-là vont encore durer, hein, parce que ça ne fait pas si longtemps que ça qu'il est parti. Donc,
Et non, ça fait 14 mois.
Mais oui, donc du coup, c'est difficile pour vous. C'est difficile hein, pour vous de...
Oui, c'est très difficile, parce que c'était mon mari que j'aimais plus que tout, mais c'était aussi mon infirmier, puisque... J'ai des appareils, il voulait nettoyer régulièrement, il ne voulait pas que je le fasse.
Et comment vous faites maintenant ?
Il me disait toujours, non, je le fais, moi. Et voilà, si vous voulez me protéger, il me protégeait, il ne voulait pas que je cuisine, il ne voulait pas que je force, il ne voulait pas ça. Il voulait me protéger tout le temps. Et puis, J'ai pas pu le protéger, lui.
Mais non, mais vous n'y êtes pour rien, vous savez bien. Il,
oui,
était, il était en pleine forme la veille, vous dites ?
Oui. On était allé marcher, faire une balade. Et puis après, on était passé chez le primaire.
Il n'avait pas de pépins, lui, de santé ?
Aucun. Il n'avait aucun problème de santé, sauf quand il allait chez son médecin. Il lui disait, docteur, je suis fatigué. Et son médecin lui répondait, monsieur, si moi, à votre âge, je suis comme vous, je serais bien content.
Oui.
Voilà. Donc, son médecin lui disait que c'était... Mais en fait, non, il devait se sentir fatigué quand même, parce que chaque fois qu'il y allait, il lui disait. Mais son médecin, lui, c'est vrai que d'apparence, personne n'aurait pu penser que... Mais personne, d'ailleurs. Ça a surpris tout le monde, quoi. Quand, d'ailleurs, même à mes enfants, quand les parents, les petits-enfants les ont appelés, ils m'ont dit, mamie, tu sais, on ne veut pas te faire de la peine. Quand on nous l'a annoncé, on pensait que c'était toi qui étais parti.
Ah oui.
Jamais ils auraient pensé que leur papy partait comme ça, si vite. Mais voilà.
Mais voilà, et c'est un moment... Maintenant, il faut passer à autre chose.
Oui.
Vous êtes contrainte de passer à autre chose. Ça ne vous empêche pas, hein, Nicole, encore une fois, de penser à lui, mais il va falloir penser à lui autrement. Hein,
oui.
Parce que lui, si vous lui parlez le soir comme ça, ou la journée, mais que quand vous allez vous coucher, vous lui racontez votre journée... Hein, il faut que vous puissiez évoquer des souvenirs gais avec lui, vous voyez. Il faut que vous arriviez à penser à tout ce que vous avez vécu de beau, d'agréable avec lui. Et arrêter de... Il faut stopper cette vision-là.
Il faut que j'arrive à enlever cette idée de sa mort, comme ça, là.
Oui, mais ça, c'est...
Que, voilà.
Déjà, si les fauteuils ne sont plus là, ça va grandement vous aider.
Oui, sûrement, mais ça sera dur quand je vais repartir le fauteuil.
Oui, mais c'est un moment à vivre, là. Mais vraiment, vous savez, au 739-21, il y a plein de personnes qui vous encouragent. Annie, Marie, Catherine, Dan. Dan qui est secouriste et qui vous dit que vous êtes une belle personne et que vous allez y arriver, c'est une épreuve extrêmement difficile et tellement injuste, vous dit-il, mais il faut que vous accrochiez pour vos enfants, pour vos petits-enfants, c'est important.
Oui, hein, oui, heureusement que j'ai des petits-enfants, je les adore, les enfants aussi, mais enfin, ils ont fait leur vie, mais bon, les petits-enfants, si, c'est eux qui me tiennent, c'est eux qui me font vivre.
Et là, la journée, vous voyez du monde un petit peu ou pas ?
Oui, j'ai une amie qui passe régulièrement, mais souvent, ils sont loin, puis avec ce confinement, ils me disaient on viendrait bien, mais tant que c'est pas encore autorisé, vous savez, ils avaient toujours peur. Et la période, le premier confinement, c'est l'année qui a été le plus dur. La personne venait. Même mes fils, quand ils venaient, le plus jeune, il venait plus souvent parce qu'il est plus près, il rentrait pas. Il me dit, maman, j'ai trop peur de te contaminer.
Mais c'est normal.
Voilà.
C'est normal.
Donc,
tout va s'arranger, là, bientôt.
Hein. Oui, oui. En tout cas, merci pour votre patience,
mais
Olivier.
Je vous en prie.
Parce que moi, je vous écoute
Nicole.
Tous les soirs, en principe.
Je vous en prie. Et puis, vous savez que vous pouvez m'appeler si vous avez un petit coup de bas, comme ça.
Oui,
vous avez fait le numéro.
Oui, ça me fait du bien. Vous savez,
hein,
votre voix me fait du bien.
Eh ben,
que je vous écoute, je vous admire, vraiment.
Bon, mais
c'est gentil. Et votre... comment il s'appelle ?
Florian.
Le petit jeune que j'ai... Oui, il a été super, vraiment super. Vous le remercierez de ma part.
Et il vous écoute.
Ah, mais c'est gentil.
Non.
Vous les remerciez parce qu'ils sont vraiment d'une gentillesse et d'une bienveillance.
Non, on est là pour ça. On est là pour ça.
Oui.
Hein,
bah, écoutez, je vous remercie beaucoup.
Et puis,
courage.
Vous fait du bien. N'oubliez pas, Nicole, ce que je vous ai dit.
Oui.
Faites vraiment, hein, enlever ce fauteuil.
Oui.
D'accord ?
Oui.
Demandez à un de vos garçons de le faire, de vous aider.
Oui, mais ils le feront parce que eux, ils n'osent pas, mais si je leur dis allez contre ma volonté, tant pis si ça me fait mal.
Voilà.
Mais faites-le.
Il faut que vous soyez courageuse encore une fois, là, supplémentaire.
Oui.
Et puis après, n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Parlez-lui.
Je vous tiendrai au courant, Olivier, comme ça ira mieux.
Avec grand plaisir. N'hésitez pas à m'appeler. Et même si ça ne va pas, vous m'appelez. D'accord ?
Merci. Vous permettez que je vous embrasse ?
Ah ben, bien évidemment, j'allais le faire, vous voyez ? Je vous embrasse bien
vous
fort,
embrasse.
Nicole.
Embrassez votre équipe.
Ok, ce sera fait.
Et merci pour tout.
Au revoir, Nicole.
Au revoir.